chat d'avance. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne matinée. Florence Aquilina au microphone des Aurores Montréal. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Joseph Hillet, le réalisateur haïtien, pour parler de son nouveau documentaire « Coûte que coûte ». Et puis ensuite, Montréal accueille le festival d'art vocal, un stage intensif unique qui réunit 21 jeunes artistes lyriques venus du monde entier. Parmi les artistes sélectionnés, dont 11 Canadiens, on retrouve la soprano Natacha Henry, que nous avons le plaisir de recevoir également aujourd'hui. Et dans un premier temps, ce matin, on prend un moment pour souligner le départ d'une grande figure emblématique du milieu communautaire montréalais. Joanne Cooper quitte la direction générale de la Maison Tangente après 36 ans, accompagnée des jeunes, et on lui parlera donc ce matin de son parcours. Mais avant, pour la revue de presse du jour, je tends mon micro à notre collaboratrice Rachel Castan. Rachel.
C'est le début du casse-tête pour les voyageurs aujourd'hui. Les travaux à l'aéroport Montréal-Trudeau ont démarré et ils vont durer jusqu'en 2035. Ce grand chantier de 4 milliards de dollars vise à ajouter de nouveaux stationnements, un nouveau débarcadère et de nouvelles portes d'embarquement. Dès cet été, des bretelles d'accès seront donc fermées et le stationnement étagé sera démoli avant la fin de l'année. Montréal-Trudeau est en travaux, mais la ville mise sur un autre argument pour attirer les scientifiques et les chercheurs aux États-Unis. La mairesse Valérie Plante investit 100 000 dollars pour accueillir ceux qui désirent quitter les États-Unis. Pour rappel, le président américain Donald Trump a tenté d'imposer des changements dans les universités qu'il considère comme des foyers de libéralisme et d'antisémitisme. Il a notamment menacé de couper le financement fédéral si ces établissements ne se conforment pas à son programme politique. Après la STM, c'est au tour de l'organisme Spectre de rue, un organisme de consommation supervisée, d'entrer en grève. Les travailleurs de Spectre de rue organisent une grève de 2 jours devant le manque de progrès dans les négociations concernant leurs conditions de travail. Décès, violences et situations dangereuses font partie de leur quotidien. La direction de l'organisme a proposé une augmentation salariale de 24 à 25,85 $, un montant qui ne satisfait pas les salariés qui désirent plutôt 27,75 $. Cette grève arrive dans un contexte plutôt dramatique car les décès par surdose au Québec sont en hausse et le problème pourrait bien s'aggraver. En 2024, le Québec a enregistré un nombre record de morts par surdose. Au total, 645 en un an. Si on remonte un peu dans le temps, en avril 2016, la Colombie-Britannique a déclaré une urgence de santé publique après avoir recensé plus de 200 surdoses mortelles en moins de 4 mois. Pour comparer, dans la province de Québec, sur l'année 2017, il y a eu un peu moins de 204 surdoses mortelles, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec. On pourrait donc se dire que les bilans des morts au Québec semblent faibles, mais les surdoses mortelles sont en baisse dans la majeure partie de l'Amérique du Nord, ce qui n'est pas le cas au Québec, où la tendance est à la hausse. Le mois dernier, la Direction régionale de santé publique de Montréal a publié un avis concernant les décès récents de 4 personnes par surdose au carfentanil. Alors pour vous donner une idée, c'est un opioïde synthétique qui est 100 fois plus puissant que le fentanyl. Donc l'Institut national de santé publique du Québec doit publier ce mois-ci ses données sur les décès par surdose au cours du premier trimestre 2025.
Merci Rachel pour ces informations. On passe maintenant en musique avec Émilie et Pierre Guitard.
Montre-moi les
remplacer le plancher.
Dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal sur les ondes de CIBL, Florence au microphone. Ce matin, on prend un moment pour souligner le départ d'une figure du milieu communautaire montréalais, Joanne Cooper, qui quitte la direction générale de la Maison Tangente après 36 ans accompagnée des jeunes en situation de précarité. Retour sur un parcours engagé, sur les réalités de l'itinérance jeunesse aussi et sur le rôle essentiel des auberges du cœur comme la Maison Tangente. Donc, je tends maintenant mon micro à Naomi Alton, notre collaboratrice qui mènera cette entrevue. Naomi?
Merci Florence. Bonjour Joanne.
Bonjour Naomi.
Alors, une question pour commencer qui peut paraître assez simple, mais est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce qu'est la Maison Tangente?
La Maison Tangente, c'est, on le dit, une auberge du cœur, donc une maison d'hébergement pour les jeunes en difficulté de tout genre, âgés entre 18 et 25 ans. Mais on sait que les auberges du cœur touchent les jeunes de 12 à 35 ans. Donc, on est beaucoup dans la prévention de l'itinérance chronique, si on veut. Donc, quand ils nous arrivent, c'est le temps de les attraper pour pas qu'ils s'installent dans un mode de vie en itinérance. Nous, on est situé dans Hochelaga-Maisonneuve. On existe depuis plus de 41 ans. Donc, c'est un petit peu ça, la Maison Tangente.
D'accord. Et comment fonctionne une auberge comme la Maison Tangente? Quel genre de jeunes peuvent être hébergés? Combien? Qui travaille aussi? Quels services on y reçoit? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé en 88, les séjours étaient de 3 semaines. Donc, les jeunes qu'on accueille, je veux dire, la base, c'est de ne pas avoir d'endroit où habiter. Donc, c'est très, très, très varié, là. On retrouve vraiment plein de catégories de jeunes. Donc, ça peut être des jeunes qui étaient dans leur milieu familial, qui vivent une crise familiale, les parents leur demandent de quitter. Mm-hmm. Ils n'ont pas les moyens. Souvent, ça peut être des gens qui vivent en colocation, ça ne fonctionne plus. Ils n'ont pas les moyens de s'en aller en logement tout de suite. Des fois, c'est des jeunes qui ont plus d'enjeux. Donc, ils vont avoir des enjeux, soit au niveau de la santé mentale, au niveau de la consommation. Donc, qui sortent d'un processus de rétablissement et puis qui, donc, doivent se reconstruire. Donc, ils vont venir chez nous. Chez nous, comment ça se passe? Parce que c'est sûr que toutes les auberges sont différentes, les jeunes qui nous arrivent, c'est sur une base volontaire. Donc, okay. C'est sûr, la personne doit vouloir faire des choses pour améliorer sa qualité de vie. Le séjour peut aller jusqu'à 1 an, où est-ce qu'on travaille l'autonomie. Au cours des années, on s'est rendu compte de plein de choses. Donc, à un moment donné, les jeunes venaient chez nous, partaient, s'en allaient en logement. À un moment donné, oups, il leur arrivait une difficulté. Ils ne savaient pas comment la gérer. Donc, ils laissaient tout en plan revenaient en hébergement, donc ce qu'on dit un peu le syndrome des portes tournantes. Okay. J'y entre, j'en sors, j'y entre. Alors, on a mis sur pied depuis 2001 un service de post-hébergement. Donc, ce qui fait que quand ils partent de chez nous, on continue de les suivre. Donc, on a une espèce de filet protecteur en cas de difficulté. On est là pour les aider, pour éviter la perte de logement. Et puis, en 2022, on a eu la chance, grâce à un programme de subvention du fédéral et de la Ville de Montréal, Initiative de création rapide de logements, d'acquérir une nouvelle bâtisse et d'ouvrir 6 nouvelles places en appartements supervisés pour une période de 2 ans. Parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que, bien sûr, les jeunes prenaient plus de temps afin d'acquérir leur autonomie, particulièrement certains jeunes qui ont des enjeux en santé mentale. Donc, des fois, ça peut prendre jusqu'à 4-5 mois avant de stabiliser ta situation et donc d'être prête à t'engager dans un processus de réinsertion. Alors, maintenant, on a une continuité, donc, des appartements supervisés où ils peuvent bénéficier d'une période supplémentaire de 2 années.
Ben justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense que les auberges du cœur sont juste des dortoirs temporaires? C'est des choses qu'on peut entendre, mais manifestement, avec ce que tu nous dis, vous faites bien plus que ça. En quoi vous faites bien plus que ça?
Qu'est-ce que tu leur dirais? On est des milieux de vie. Si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter la Maison Tangente, on aime toujours ça, puis je suis sûre que ma continuité va... va continuer ça. Je veux dire, on aime ça accueillir les gens, on aime ça leur montrer qui on est, ce qu'on fait. Nous, ben, je veux dire, on est un triplex très ordinaire dans Hochelaga-Maisonneuve. Si vous passez devant, vous ne pouvez pas savoir que c'est une maison d'hébergement, que c'est une auberge du cœur. Donc, c'est une espèce de grand 8,5 avec sous-sol où, à la base, il y a 8 jeunes qui y habitent, plus des intervenants. Plus, on a une place de dépannage aussi. Et je veux dire, c'est l'interaction, là, c'est la vie. Nous, on vit avec eux. Je veux dire, c'est sûr que, bon, on fait des quarts de travail. Mais je veux dire, quand on est là, on mange avec eux, on discute, on vit avec eux, on va jouer aux cartes. C'est un milieu de vie à la base où est-ce qu'ils sont là pour faire des apprentissages, apprentissage budgétaire, apprentissage culinaire. Bien sûr, on a une personne, un formateur, justement, qui va les aider à faire ces acquis-là. Puis, après ça, comme je vous disais, tout le reste du séjour, il y a toujours un degré de plus d'autonomie qu'on leur fait acquérir. Donc, après 3 ou 4 mois, quand la situation est stabilisée, ils peuvent monter au 2e et au 3e étage du triplex, où là, c'est un partage de logement, continuer d'avoir un suivi un peu plus intensif, mais ils doivent faire leur propre épicerie. Donc, c'est déjà une petite coche de plus, faire leur repas. Mais on a bien sûr toujours la salle commune où il y a des activités, des ateliers qui se fait, des cuisines collectives où nos anciens peuvent venir aussi. On sait à quel point avec l'inflation, tout est cher. Donc, de pouvoir se faire plusieurs portions là, pour un 7 $, c'est très apprécié.
Et sur une note un peu plus personnelle, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la Maison Tangente il y a plus de 3 décennies maintenant et à y rester aussi longtemps?
Plus que la moitié de ma vie, là, c'est sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est drôle parce que déjà, j'étais attirée par les jeunes. La prévention de l'itinérance jeunesse m'a toujours fascinée. Je ne comprends pas dans une société aussi riche dans laquelle nous vivons qu'on laisse des jeunes vivre des situations comme ça. Ils sont notre avenir, ils sont... Donc, à ce moment-là, mais je vous dirais, j'ai appliqué 3 fois à la Maison Tangente avant qu'on m'embauche. Donc, j'étais persévérante. Vraiment, je voulais. J'ai commencé comme intervenante, après à la coordination. Et puis, quand la directrice est partie en 2007, c'est là que j'ai pris la relève. Et c'est un petit peu notre culture d'entreprise. Donc, c'est des gens qui ont fait le parcours complet qui souvent vont arriver à la direction. Donc, ça fait qu'on garde l'histoire, on garde notre façon de faire aussi. Moi, je suis encore en lien avec des jeunes que j'ai eus là, à mes premières heures, là, à mes débuts. Le milieu de vie aussi, c'est quelque chose de spécial. C'est vraiment un lien qu'on doit créer, c'est une relation. Puis moi, je leur dis toujours, la différence entre toi et moi, c'est que, bon, moi, quand je pars d'ici, j'ai mon logement, alors que toi, tu es en processus pour acquérir le tien. C'est vraiment des jeunes qui sont pleins de potentiel, qui ont eu des parcours de vie en dentiste, mais qui ont tellement de potentiel. Là. Une des petites phrases fétiches que j'avais, c'est « J'aimerais ça que tu puisses te voir à travers mes yeux.
Wow. »
Pour voir tout le potentiel que tu as. Mais on sait qu'on refait pas... On refait pas une âne, une vie. Sortez-la, s'il vous plaît. Désolée. On refait pas une vie qui s'est passée avec plein d'embûches en une année. Ça, on le sait. C'est pourquoi on peut les accueillir pour plusieurs séjours, donc jusqu'à 3 séjours. Et moi, j'ai vu souvent les changements significatifs, là, où est-ce qu'ils arrivent à atteindre les objectifs qu'ils nous ont dit à leur arrivée. Souvent, ça peut prendre entre 5 et 7 ans. Là.
Mais justement, toi qui as été une actrice sur le terrain pendant suffisamment longtemps, comment la situation a évolué pour ce qui est de l'itinérance jeunesse? Qu'est-ce que tu observes comme progrès, j'espère, ou pas?
Non, c'est une dégradation, là, vraiment. Moi, quand j'ai commencé à travailler, mon but, c'était de ne plus avoir d'emploi. Parce que, comme je disais, je n'arrivais pas à comprendre comment des jeunes pouvaient se retrouver dans des situations comme ça. C'est pire que pire présentement. Ouais. Au cours des années, au lieu d'investir à faire en sorte d'amoindrir les facteurs de risque qui font que les jeunes se retrouvent en itinérance, il n'y a eu aucun investissement qui s'est fait à ce niveau-là. Ici, je ne sais pas, je pense que la prévention, on a de la difficulté avec ce mot-là, on croit que ça n'existe pas. Donc, on est toujours dans de mettre des pansements, désolé. On est dans le curatif au lieu d'être dans le préventif. Et c'est ce qui fait que là, bien, on le voit. C'est une situation qui est devenue complètement incontrôlable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comme essayer de changer le cap et de retravailler à la prévention, ce que je vais m'employer à faire là, dans les prochaines années.
Oh.
Ça continue à être une mission.
Et tu parles du manque de ressources publiques pour répondre à cette problématique. Quel autre obstacle tu as rencontré tout au long de ta carrière avec la Maison Tangente?
Ah, le financement.
Sans surprise.
Le financement, c'est très difficile. On est en première ligne. Pendant la pandémie, on est donc essentiel, puis nous aime donc. Tout le monde nous aime donc. Mais après ça, tu vois, nous, à la Maison Tangente, on va être à notre troisième année où on n'a aucun rehaussement. Aucun rehaussement de notre PSA, qu'on a bien sûr l'indexation, mais qui est à 1,6 %, là. Donc, aucun rehaussement. Donc, c'est très difficile de maintenir des équipes, de pouvoir fidéliser aussi nos employés. Je vous entendais tout à l'heure parler au niveau de ce qui se passe à Spectre-de-Rue. Et effectivement, je veux dire, le communautaire s'est professionnalisé. Puis là, on a des jeunes qui sortent des écoles, qui ont des bacs, qui ont des maîtrises, qui veulent travailler dans le communautaire, mais qui pourraient demain matin gagner 10 et 12 $ de plus de l'heure en allant travailler dans le réseau. Et avoir un travail beaucoup moins, je veux dire, astreignant, là. Je veux dire, on est en première ligne, on fait vraiment face à la plus grande vulnérabilité des gens. Et puis ça, bien, c'est pas reconnu. Ça a toujours été ça, le manque de reconnaissance gouvernementale du travail qu'on fait et le manque de financement.
De quoi est-ce que tu es le plus fière, Joanne, quand tu regardes les 36 dernières années? Qu'est-ce que tu retiens? De quoi tu es le plus fière?
Bien, je pense que c'est de me dire qu'en plus de 36 ans, je peux compter sur les doigts d'une main les matins où ça ne m'a pas tenté d'aller travailler.
Wow.
Donc, ça veut tout dire. Si j'ai passé autant de temps là, c'est que j'y ai trouvé ma place. À chaque jour, j'ai appris. J'ai appris des jeunes. J'ai appris de mes collègues. J'ai appris... Ces jeunes-là sont extraordinaires. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. J'aurais pas pu rêver d'une plus belle carrière dans le communautaire. Mais je vais devoir travailler longtemps parce qu'on n'a pas vraiment de gros fonds de pension, on n'a pas vraiment de grandes choses. Donc, au niveau des conditions, c'est très... Et de partir avec, en laissant vraiment deux bâtiments derrière moi, sans aucune hypothèque, qui fait qu'on peut continuer notre travail en ayant un petit souci de moins financier, c'est au moins ça. Et puis, de continuer d'améliorer, d'évoluer, parce que les deux personnes qui vont me remplacer, c'est deux personnes extraordinaires. Marie-Noëlle Perron, ça fait 20 ans qu'elle est avec nous. Mm-hmm. Jonathan Pelletier, ça fait 15 ans qu'il est avec nous. Mm-hmm. Donc, quand je disais c'est une culture d'entreprise, c'est vers ça qu'on s'en va. Puis, ils m'ont amené à la Maison Tangente encore beaucoup plus loin.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Joanne.
C'est moi qui vous remercie pour cette belle opportunité. Merci
beaucoup. Si je peux me permettre rapidement, je voulais juste rajouter une petite question de relance parce que vous avez parlé de la prévention comme étant vraiment la clé là, pour remédier à la crise de l'itinérance. Ce serait quoi les facteurs de prévention clés, justement, autant au niveau systémique là, qu'individuel, pour y remédier?
Mais qu'on investisse au niveau des familles. Donc, déjà en partant, si les problèmes sont vus plus rapidement, qu'on investisse au niveau des écoles. Je veux dire, le décrochage scolaire, 75 % des jeunes que je reçois ont décroché scolairement. Qu'on investisse à éviter de faire en sorte que les jeunes se retrouvent en centre jeunesse, qui on sait que c'est un énorme facteur de risque et qui contribue à l'itinérance jeunesse. Donc, c'est la prévention, c'est la clé. C'est pour ça que j'ai aidé à fonder avec Dans la rue en 2018 la coalition Jeune Plus sur la prévention de l'itinérance jeunesse et qu'on essaie de travailler à ces niveaux-là. Donc, de faire en sorte que les gouvernements reconnaissent qu'on doit agir en amont et donc investir dans la prévention.
Merci beaucoup, Joanne. Merci aussi, Naomi, pour cette entrevue. C'était Joanne Cooper de la Maison Tangente, en fait, qui quitte la Maison Tangente, comme on dit, après 36 ans. On passe maintenant en musique avec Pèlerinage de Mélanie Venditti. On revient très rapidement avec Joseph Hillel.
De peau, coquillage, à genoux, on se rend. Pourquoi vous devriez jouer au bingo de CIBL les dimanches à 13h? Ben, première raison, parce que vous pourriez gagner jusqu'à 3000 $ en prix. Deuxième raison, parce que votre participation aide CIBL, l'unique radio communautaire francophone à Montréal, qui est là pour vous depuis 45 ans. Dernière raison, ben, parce que c'est le fun, tout simplement. Ah, et saviez-vous, vous pouvez aussi écouter le bingo sur votre télé avec Vidéotron au 574 ou avec Bell au 959. Achetez votre livret de cartes pour seulement 9 $ dans un point de vente près de chez vous. Vous trouverez toutes les infos sous l'onglet Bingo Radio du site web cibl1015.ca. Venez jouer avec nous au bingo de CIBL tous les dimanches à 13h et bonne chance!
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h, à CIBL.
Excusez-la.
Vous aimez le folklore et la tradition? Eh bien, Excusez-la est le rendez-vous tout indiqué pour vous. Il s'agit d'une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise qui explore différents volets, que ce soit par des entrevues avec les artistes, par leur apparition de nouveautés ou par des chroniques sur des sujets précis. En compagnie de Marc Bolduc, tous les dimanches de 17h30 à 19h. Soyez au rendez-vous et en avant la tradition!
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
CIBL 105, Montréal.
Vous êtes dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal, sur les ondes de CIBL. Florence, au microphone. Aujourd'hui, on reçoit Joseph Hillel, réalisateur haïtien, pour parler de son nouveau documentaire « Coûte que coûte ». Le film nous plonge en plein cœur d'Haïti, un pays où il y a la violence et la peur, mais aussi où des artistes continuent de créer, de résister, de se battre pour leur culture. Joseph suit ce groupe d'artistes du festival Quatre Chemins, qui malgré tout montent des spectacles et gardent vivante cette flamme. Merci beaucoup, Joseph, d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de me recevoir.
Donc, Joseph, comme je disais, tu suis les artistes depuis longtemps dans tes films. Qu'est-ce qui t'a donné envie là, de raconter cette histoire-là d'Haïti et de ces artistes qui créent dans un contexte quand même assez compliqué, complexe? Oui.
Le point de départ de ce film, c'est un casting que j'ai organisé à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien il y a une dizaine d'années. C'était pour un film de Philippe Falardeau qui s'appelle « Guy Basse en va en guerre ». Mmh. Alors, il cherchait un personnage qui s'appelle Souverain dans le film, qui est l'assistant de Patrick Huard. Je ne sais pas si vous avez vu le film en question. Mais, alors, il cherchait un jeune haïtien de 18-21 ans, puis qui était finalement joué par Irdens Exantus. Mmh. Mais alors, c'est ça. C'est en préparation de ce tournage-là, il voulait faire un casting, et puis j'ai été le faire pour lui là-bas, avec l'aide de Guy Régis Junior, qui est le directeur du Festival Quatre Chemins, qui était à l'époque directeur de la section théâtre d'une école d'art à Port-au-Prince, qui s'appelle l'ENART. Alors, on organise un casting. Je me dis, on va aller fouiller dans les étudiants de l'école à ce moment-là. Puis, alors arrive la première journée, comme à peu près 200 jeunes de 18-20 ans, avec veston, cravate, tout chic, pour faire le casting. Alors, c'est le point de départ. Je rencontre à ce moment-là ces jeunes très gotsés qui viennent passer un casting pour un film canadien qu'on peut aider à quoi ça ressemble, mais qui viennent, qui sont comédiens, qui sont partants. Et suite à ça, j'ai des contacts avec eux que je garde. Et puis, quand arrivent des moments un petit peu difficiles, on échange. Et puis, 10 ans après, ben, c'est la COVID, c'est l'assassinat du président à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, je décide, on est fermé ici aussi, alors je décide d'aller à leur rencontre, voir s'il n'y avait pas un projet qu'on pourrait initier. Je comprends à ce moment-là qu'ils gravitent tous autour du festival Quatre Chemins, et que je ne connaissais pas. Et puis, okay. Que je ne connaissais pas pour différentes...
Ça fait longtemps qu'il existe, comme on en discutait à la pause musicale.
Exact. C'est un festival qui a 24 ans.
Exact, oui.
Je suis en Haïti régulièrement, surtout à cette période-là, mais je n'y étais pas. Je reste pas à Port-au-Prince quand j'y vais, parce que Port-au-Prince, c'est un petit peu particulier, c'est pas facile. Alors, je suis souvent à l'extérieur de la ville. Et puis, ben, cette année-là, j'ai décidé, 2021, 22, 23, et j'ai décidé de passer, d'aller voir au Festival Quatre Chemins. Et c'est là que le film été initié.
Mmh. Donc, on parle de conditions quand même difficiles malgré tout et de ces artistes. Donc, il y a une dualité dans le film que je trouve très intéressante. Donc, des artistes qui persistent et en toile de fond, c'est sûr qu'on devine le contexte politique très difficile. On voit les artistes répéter dehors, notamment dans la rue, parfois dans des conditions aussi un peu difficiles. Pourquoi tu as choisi de montrer ce moment-là, ce travail en train de se faire et pas juste le spectacle fini? En fait, on voit plus le processus créatif que le résultat final.
Exact. Je voulais pas, on essaie de briser le quatrième mur au théâtre, sinon je me ramasse avec un mur de gens qui font des pièces sur une scène. Alors moi, c'est le processus qui dure quand même plusieurs très longtemps pendant le festival, même en amont du festival. C'était et découvrir les textes aussi, parce qu'il y a beaucoup de textes très importants qui m'interpellaient. Je ne savais pas d'ailleurs, est-ce que je suis un personnage, est-ce que je suis les textes, comment monter ce truc-là, je ne savais pas. On était dans l'observation pendant un mois. Mais avant d'y aller avec une équipe de tournage, j'ai été deux années auparavant faire des entrevues, j'ai regardé comment ça se passait aussi. C'est pas facile de tourner parce que, bon, la scène qu'on voit peut-être, qu'on voit dehors, dans la rue, j'en ai profité parce que c'était l'année du mondial de football et puis il y avait Brésil qui jouait. Je savais que tout le monde était devant sa télé, alors je suis sorti cette journée-là avec deux caméras pour aller faire cette scène-là. Mais normalement, c'est très difficile. Et puis, je ne voulais pas montrer cette dimension-là nécessairement non plus. Alors, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Quand je circule autour du festival, la majorité du festival, du tournage a eu lieu dans le quartier général du festival, un genre de complexe.
Oui.
J'appelle ça un lacou là-bas. Ça peut ressembler à la maison Égère, multidimensionnelle. Et puis, mais il y avait aussi des centres d'art autour. Alors, c'est au centre. Je tournais autour de là, je circule à moto. Alors, ça se fait vite, à 10 minutes autour du festival, sans prendre trop de risques.
Quelque chose qui revient beaucoup aussi dans ton documentaire, c'est de résister par l'art. Donc, l'art comme forme de résistance, encore une fois, dans un contexte politique complexe. J'aimerais t'entendre davantage là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses toi-même en tant que cinéaste de la résistance par l'art?
Oui, bien, la résistance, je pense que c'est universel d'une certaine façon. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à aller voir de l'autre côté pendant qu'on était dans la COVID. Je connais des danseurs ici, des gens qui font de l'art vivant, puis c'était compliqué là, pendant la COVID ici. Là, tout le monde est confiné, c'est très angoissant. Je connais aussi la résistance parce que je suis documentariste et que c'est pas facile de sortir un film, particulièrement en été, quand il y a des blockbusters qui sortent. On se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on fait comme art, alors que c'est notre contexte de travail est difficile. C'est ce même souffle-là que j'ai perçu chez ces jeunes que j'ai rencontrés dans la vingtaine et qui sont rendus à 30 ans avec des enfants, puis ils sont dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est des artistes ou est-ce que je suis médecin? Est-ce que je suis journaliste? Il y a toutes ces questions-là qui chamboulent, quoi.
La majorité du documentaire prend place à Haïti, mais il y a quand même une partie qui a été filmée à Montréal. Aussi, j'ai trouvé que c'était une dualité intéressante dans le sens où il y a une partie du documentaire, on voit un artiste qui vit à Laval, loin de Port-au-Prince, d'origine haïtienne. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, là, cet éloignement, cet exil par rapport, encore une fois, à la création, à l'identité aussi?
Il y a deux artistes dans le film. Il y a Guy Régis qui vit en France et puis il y a une autre artiste, Natania Périclès, qui est à Strasbourg. Alors, toujours cette dynamique-là de partir ou rester à Port-au-Prince. Comme mes parents sont venus avec nous ici parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans le temps de Duvalier. Alors, on vit toujours avec ça. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je vais vivre ailleurs? Parce que c'est difficile en Haïti. Ça, je voulais le montrer. Puis, bon, ça donnait que Guy passait par Ottawa pour faire un labo sur une pièce. Je les ai suivis beaucoup, là. J'ai appris un petit peu comment filmer des répétitions, tout ça. De la lecture jusqu'à la mise en scène. Et alors, je voulais montrer ça. Puis finalement, Staloff, qui est dans le film au début, il est en Haïti, puis il a traversé. Je voulais sonder ses déchirements parce qu'il a laissé ses deux enfants là-bas avec sa femme, et puis il est arrivé ici. Je voulais le questionner là-dessus. Je voulais voir comment est-ce composé avec ça. Et puis comment est-ce qu'un artiste ici peut venir se révéler sur une autre scène que celle une scène plus confortable que celle d'en Haïti, mais qui est beaucoup plus difficile pour un artiste pour, d'émerger comme ça dans la trentaine.
Mais pour un artiste aussi, qui est tellement rattaché à son identité, oui. De, sans dire de s'exiler, mais de devoir quitter, ça doit vraiment être un déchirement assez difficile sur le plan identitaire.
Oui, on le sent beaucoup dans le film, lorsque, dans cette entrevue-là, là, à la fin.
Oui.
Et, mais il essaie de vivre de son art ici. En attendant, ben c'est du travail dans CHSLD, un truc
ouais,
comme ça. Oui,
c'est ça. Joseph aussi, je veux parler de la mise en valeur de la culture haïtienne dans un sens plus large, parce que le film aussi met en valeur Franck Étienne, un grand nom de la culture haïtienne. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de l'avoir dans ce documentaire?
c'est un accident, en fait, parce que...
Ah oui?
Oui, parce qu'on ne devait pas y aller. C'était le parcours pour aller chez lui était dangereux. Et puis, j'ai arpenté le chemin à quelques reprises avant d'y aller avec l'équipe. Puis, c'était pas sûr. Là, c'était pas clair qu'on irait. Et puis, c'était un bon samedi matin. Le chemin était clair. J'ai des gens qui font le travail d'éclaireur de temps en temps pour nous. Et ce samedi matin-là, ça tombait bien. Puis, il y avait une équipe du festival, dont Guy, qui allait. Mmh. Alors, on les a suivis. Preneur de son qui ne devait pas sortir cette journée-là parce que bon, on avait conclu un accord comme quoi on ne sortirait pas dans des endroits dangereux avec lui. Alors j'y allais juste avec le directeur photo, mais finalement il venait avec nous.
Ouais.
Alors l'idée de montrer la culture haïtienne puis cette lumière-là, c'est que je vis ici, je fais du documentaire, mais c'est mon deuxième film en Haïti. Et tout le monde constate que Haïti résonne avec quelque chose de chaotique, de très négatif. Mm. Et ça devient, je trouve ça un petit peu réducteur. Oui, il y a une réalité là-bas, mais de montrer toujours que ça et toujours d'avoir ce petit clip-là, 30 secondes aux nouvelles qui nous expose un chaos, ça vient épuisant. Ça devient, il n'y a pas que ça. Haïti, c'est pas juste le chaos comme... la Jamaïque, c'est pas juste Bob Marley, c'est comme il y a d'autres choses à connaître, d'autant plus qu'il y a une communauté haïtienne assez importante ici, une communauté qui a aussi travaillé énormément à élever ce Québec moderne-là dans les années 60. Il y avait des médecins, beaucoup d'enseignants qui sont venus ici. Alors de réduire Haïti simplement qu'à son chaos, je trouve ça réducteur, quoi.
Et le documentaire fait tout sauf ça. On voit vraiment justement la présence de culture, de théâtre comme moyen de militer.
Exact.
Mais tout de même, il doit quand même avoir un certain, ou certains plutôt, défis de tourner dans ces conditions-là. En fait, il y a un moment dans le documentaire où on entend, il y a une fusillade où on entend des tirs de fusil au loin. Et il y a les artistes, donc la troupe, qui suivent les nouvelles
Oui.
Et c'était comment de devoir naviguer justement ces conditions-là? Est-ce qu'il y a eu des embûches lors du tournage?
Pas vraiment, je veux dire.
Okay.
Non,
okay.
J'ai plus composé avec la peur qu'autre chose.
Okay.
Je connais Port-au-Prince très bien. Alors, j'y circule depuis très longtemps à chaque année. J'ai eu ma façon de me déplacer. C'est surtout le problème de transport. Mais autrement, on fait attention. Il y a un couvre-feu au mois de novembre qui nous force à fonctionner entre 9h le matin et 5h l'après-midi. Et puis, non, j'ai pas vraiment... On est exposé à cette peur-là, puis au bruit, puis à un moment donné, ça passe. Il n'y a pas de fenêtre où on est, alors on entend des coups de feu, des fois deux jours d'affilée, et puis à un moment donné, ça se calme. On est tout près du centre-ville, à Paco, c'est une zone boisée près du centre-ville. Mais c'est ça, à un certain moment, on oublie cette... personne s'est fait dans l'équipe ou autour de l'équipe, tout le monde rentre à 5 heures. Et puis, le festival a lieu, coûte que coûte. On n'a pas eu d'embûche, réellement. La principale
embûche, tel le nom du film, oui.
La principale embûche, c'est de confronter la peur, puis d'y aller. Une fois sur place, l'équipe c'est après quelques jours, lui, comme tout le monde comprenait qu'on allait passer un bon moment pendant ce mois-là.
Donc, c'était plus de gérer la peur, finalement,
exact.
Le défi comme tel. Comment le temps passe, donc j'aimerais peut-être te poser la question, comment tu vois l'avenir pour les artistes haïtiens, pour la scène artistique là-bas?
Ouf, grosse question. Bien, ils ont une pulsion puis une passion qui est admirative. Oui. Moi, c'est ce que j'ai voulu montrer. Et j'y crois. Je crois ce moteur-là, comme une des actrices raconte. Je crois cette énergie-là qui va les propulser. Puis bon, comme un autre des artistes mentionne, on vient de loin. Ils ont combattu. C'est quand même un pays qui a une histoire de résistance. Alors, je veux croire que ça va. Ces artistes-là vont se révéler. Puis on va les voir émerger ailleurs qu'à Port-au-Prince.
Peut-être juste pour terminer, donc il y a eu une projection du film la semaine dernière au Cinéma Moderne et là, ce dimanche, il y a une projection au Cinéma Beaubien, c'est
exact,
bien ça?
Exact, dimanche à 13h et puis aussi demain, je sais que vous n'êtes pas diffusé à Québec, mais il y a des projections dans les prochains jours à Québec également.
Merci beaucoup, Joseph, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous.
C'était Joseph Hillel, réalisateur haïtien, pour parler de son nouveau documentaire « Coûte que coûte ». Vous pouvez l'écouter ce dimanche à Beaubien. On passe maintenant en musique avec Messi, Bondier et Wesley et on revient très rapidement avec Natacha Henry.
Merci, bon Dieu. Gardez qui sont la misère. Fini pour nous. Merci bon Dieu, gardez qui ça la nati porte pour nous. La pluie tombée, ma vie poussée, tout petit monde qui gongou yo pralé manger. On nous danse conto, on nous danse pétro, papa bon Dieu, gardez qui sont la misère finie. Oh, no.
Vous êtes dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal, sur les ondes de CIBL. Florence au microphone. Du 2 au 27 juillet, Montréal accueille le Festival d'art vocal, un stage intensif unique qui réunit 21 jeunes artistes lyriques venus du monde entier, dont 11 Canadiens. Ce programme vise à former la relève de l'opéra avec classes de maîtres, performances et productions ouvertes, autant aux mélomanes qu'au public amateur. Parmi les artistes sélectionnés, comme je disais, dont 11 Canadiens, on retrouve la soprano Natacha Henry, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci, Natacha, d'être avec nous.
Merci de m'accueillir. Merci.
Donc, comme je disais, Natacha, tu feras partie des 21 jeunes artistes invités à ce stage de haut niveau. Comment t'es-tu préparée là, pour ce mois de formation intense au cœur de la scène lyrique internationale?
Oui, donc c'est surtout que je vais faire un grand rôle dans la Flûte enchantée, qui est la production majeure du stage. Donc, ça demande beaucoup de préparation, donc des mois et des mois d'avance, même des semaines. Donc, c'est sûr que je passe à travers tout le livret pour m'assurer que je connais exactement toute la pièce. Et en allemand, bien sûr, donc il y a une barrière de langue. Mmh. Donc, faire les traductions, s'assurer que la prononciation est exemplaire. Essayer de trouver un peu aussi l'arc de mon personnage. C'est quoi son histoire? C'est quoi son développement psychologique aussi à travers l'histoire? C'est quoi ses relations avec les autres personnages aussi? Mais j'ai aussi un travail en tant que chanteuse hors de la production, d'apporter du répertoire autre que j'aimerais travailler avec les pianistes qui sont invités aussi, les pianistes stagiaires au stage. Donc, ça demande beaucoup de préparation, mais c'est vraiment un beau travail à faire, là. Oui.
Puis c'est ça, c'est formateur comme festival, c'est quand même assez unique. Donc, la Flûte enchantée en fait définitivement partie, c'est la prestation, on va y revenir. Mais le festival comprend aussi des classes de maîtres, un gala lyrique, la production finalement de la Flûte enchantée, mais aussi une audition devant public, on en parlait à la pause musicale, et orchestre diffusé en ligne. C'est quand même assez particulier là, de donner la chance au public d'assister à une audition. Qu'est-ce que ça représente pour toi de chanter dans un tel contexte?
Oui, mais moi, en fait, je me constate très chanceuse de vivre cette expérience-là parce que c'est une opportunité qui est unique. C'est vraiment rare que ça nous ait présenté, surtout pour les jeunes chanteurs, de chanter avec orchestre, premièrement. C'est assez rare. Et puis aussi de pouvoir présenter un air qu'on présente en audition, dans nos auditions quotidiennes, mais c'est surtout avec piano habituellement. C'est jamais avec orchestre. Mmh. Donc, de pouvoir vivre cette expérience-là puis d'avoir l'espèce de grand son d'orchestre derrière nous, puis pouvoir présenter cette pièce-là au public, ça va être vraiment incroyable. Puis ça va être diffusé aussi en temps réel, donc une panoplie de directeurs artistiques partout dans le monde, il faut pouvoir écouter puis nous entendre. Donc c'est une chance incroyable aussi de se faire entendre, de se faire découvrir, une vitrine exceptionnelle. Ouais.
Aussi, c'est l'aspect international du festival que je trouve intéressant, que je vais aborder. Vous êtes 21 artistes sélectionnés parmi près de 300 candidats, donc félicitations.
Merci.
Venant de pays comme la France, l'Italie, la Chine, la Corée, qu'est-ce que ça change pour toi là, de côtoyer cette diversité artistique pendant un mois?
Oui, donc moi, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir aussi travailler avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de travailler à Montréal. Mm-hmm. C'est une petite communauté quand même, donc on travaille souvent avec les mêmes personnes. Donc là, d'avoir des nouveaux visages, des nouvelles perspectives.
Exact.
Oui, j'ai vraiment hâte.
Une nouvelle façon de fonctionner, peut-être des formations aussi qui
divergent. Exactement, oui. Puis d'entendre aussi les différences techniques vocales, parfois d'un pays à l'autre, qui peuvent être intéressantes. Des perceptions, aussi apprendre des langues différentes. Il va y avoir une personne allemande aussi, ça va être intéressant de pouvoir lui poser des questions sur l'allemand aussi.
Pour la Flûte enchantée.
Exact, pour la flûte, ou même des personnes, il y a des gens de la Corée, de la Chine, donc je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir côtoyer ces personnes-là aussi. Là. Oui.
Et vous êtes tous supervisés par des mentors, donc le programme permet de travailler avec des gens de renom, comme Tracy Dahl, Étienne Dupuis, ou encore Claude Webster.
Oui.
Est-ce qu'il y a un nom en particulier, une personne que tu as hâte de rencontrer, avec qui peut-être tu n'as pas encore travaillé?
En fait, j'ai eu la chance de travailler avec la plupart de ces personnes-là, parce que j'ai participé à ICAV il y a 2 ans. Donc, c'est mon retour pour une deuxième fois cette année. Et puis, c'est sûr que moi, Tom J. Burr, ça avait été un coup de cœur pour moi. Là, un coach incroyable, d'une générosité là, immense. Puis, il est tellement gentil, puis c'est tellement plaisant de travailler avec lui. Mais tout le monde est tellement plaisant. Mathieu Pourdois aussi, c'était un ange, il était incroyable. Et puis aussi, Henry Ingram, par contre, c'est nouveau pour moi. J'ai vraiment hâte de le rencontrer en tant qu'agent pour Dean Artist, qui est une grande agence au Canada, à Toronto. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir le rencontrer pour travailler un peu, puis parler des agences et tout ça. Mais je vous dirais que quelqu'un de nouveau pour moi, c'est Ariane Girard. J'ai jamais eu la chance de travailler avec Ariane Girard, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir travailler technique et répertoire avec elle.
Mais justement, est-ce que tu as des choses déjà en tête que tu as particulièrement hâte de travailler et d'apprendre? C'est ta deuxième édition du festival.
Oui.
Donc, c'est ça, peut-être que tu as déjà appris des choses dans la précédente édition. Dans celle-ci, qu'est-ce que tu as en tête?
En fait, c'est surtout pour moi le développement d'un rôle qui est aussi gros que le rôle de Pamina, parce que c'est un rôle qui est vraiment énorme. Donc, de pouvoir travailler, premièrement, l'endurance un peu de faire un rôle aussi grand.
Exigeant.
Et, exact, oui, exigeant et grand. Donc, ça va être surtout ça mon gros défi pour moi. Puis de travailler aussi avec la metteur en scène, Nathalie Deschamps. Donc, de mettre en scène le personnage, pour moi, ça va être vraiment... j'ai vraiment hâte de travailler avec elle aussi. Puis avec le chef aussi, Christopher Gaudreau. Donc, j'ai vraiment hâte de travailler avec lui. J'ai jamais eu la chance de travailler avec lui en tant que chef, en tant que pianiste, oui, mais pas en tant que chef.
On va parler de la flûte enchantée parce que tu seras entourée d'un orchestre professionnel dirigé par une équipe d'artistes chevronnés, comme tu disais. Ça représente quoi, là, cette musique pour toi? La flûte enchantée de Mozart, c'est pas rien. Et en plus, tu occupes un rôle important.
Oui. Donc, pour moi, la flûte enchantée, c'était un opéra dont j'ai rêvé depuis longtemps.
Oui.
Le rôle de Pamina, c'est un de mes rôles de rêve. Donc, quand ils m'ont annoncé que j'allais interpréter le rôle, j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc, l'opéra, je ne sais pas, c'est un opéra qui est vraiment mystique puis intéressant à la fois. Le rôle des femmes est vraiment intéressant aussi, je trouve. Les femmes occupent une position un peu étrange, à la fois féministe puis à la fois non. Puis, je trouve que l'opéra, dans son temps, était très avant-gardiste. Donc, je trouve... C'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais je trouve que pour un opéra de cette époque-là, c'était vraiment très avant-gardiste, le livret et la musique également. Donc, je trouve que c'est un aspect qui m'a beaucoup fascinée. J'ai même fait plusieurs recherches là-dessus il y a quelques années sur le rôle des femmes dans cet opéra-là. Puis, donc là, je suis vraiment contente de pouvoir plonger dedans, dans un personnage aussi.
Mais tu réalises un rêve en cette édition du festival, un rôle de rêve. Et ce type de formation-là, post-universitaire, corrige-moi si j'ai tort, semble quand même assez rare, ce contexte-là, quand même assez unique.
Oui.
Donc, parle-moi un peu, justement, de l'unicité, de l'authenticité d'une opportunité comme celle-ci.
Oui, bien, en fait, pour avoir participé à plein d'autres académies qui existent un peu partout dans le monde, je trouve que ICAV se démarque particulièrement par son accessibilité. Donc, grâce à des mécènes d'ici, on n'a rien à payer. Notre hébergement est complètement fourni. Les frais sont complètement gratuits parce que souvent, ce qui peut poser une grande barrière pour les jeunes chanteurs quand ils terminent l'école... C'est les frais de ces stages-là qui sont vraiment, vraiment dispendieux, qui peuvent monter à des milliers de dollars facilement. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment l'unicité de ICAV pour moi, mais également que c'est au sein de notre ville ici, à Montréal, puis que ça devient une espèce de grand festival d'été où on invite vraiment tout le public à venir écouter nos quatre événements importants là, cette année. Mais je trouve que ça nous offre une espèce de panoplie. On ne fait pas juste une production d'opéra. On a aussi l'audition, qui est une chance incroyable de chanter avec orchestre puis de se faire entendre devant différents dirigeants artistiques. Puis on a aussi le gala d'opéra où on peut travailler différentes scènes, des plus grandes scènes du répertoire opératique. Donc on va faire des duos, des solos, des trios, des quatuors, etc. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et puis on a aussi une panoplie de classes de maîtres. Donc c'est vraiment une espèce de... gros package, excusez-moi pour l'anglicisme, mais on fait un peu de tout. C'est vraiment rare dans ces académies-là, dans ces stages intensifs, qu'on nous offre une espèce de formation 360 comme ça, où on a vraiment la chance de toucher un peu à tout. Donc, autant des classes de maître, travailler avec des coachs, travailler avec des professeurs de chant, des chefs d'orchestre, côtoyer autant de chanteurs aussi à l'international comme ça. Donc, je trouve que... En tout cas, c'est vraiment un très, très beau programme qui mérite d'être encore plus découvert.
Et ouvert au grand public aussi.
Oui.
Donc, c'est formateur pour les stagiaires.
Exact.
Mais je le rementionne parce qu'on invite les gens à aller vous voir. C'est quand même assez unique le fait que le public suit tout ce processus-là, dont une audition.
Exact.
Tu l'as mentionné, Natacha, le Festival d'art vocal de Montréal met vraiment l'accent sur la démocratisation là, de l'accès à la formation lyrique, oui, notamment en payant les frais pour les stagiaires. Selon toi, là, dans une perspective plus large, c'est quoi l'importance de ce type d'initiative-là, justement, sur votre formation?
En fait, moi, je pense que ça l'offre la chance à tout le monde. Ça l'offre vraiment une chance qui est égale à tous les chanteurs, peu importe leur niveau, puis peu importe d'où ils viennent. Je trouve que c'est une façon de rassembler, puis d'offrir une chance à peut-être des chanteurs qui aimeraient tellement participer à ces stages-là, mais qui n'ont pas la chance. Moi, par exemple, la première année où j'ai fait ICAV, j'aurais pas pu y participer si ça n'avait pas été de des donateurs qui nous offrent en fait ce stage-là. Donc, je trouve que c'est vraiment une très belle opportunité, puis qui ouvre des portes à beaucoup de chanteurs qui n'auraient pas pu le faire sinon.
Puis que c'est important de mettre en place ce genre d'initiative-là. Est-ce que c'est difficile en début de carrière, il doit quand même avoir certaines embûches là, à surmonter, naviguer le monde de l'opéra comme ça à la sortie des études?
Oui, donc c'est un milieu qui est très difficile parce que, premièrement, il est très compétitif, très exigeant mentalement psychologiquement,
ouais,
physiquement. Donc, c'est un métier qui est vraiment difficile. Puis, faire sa place aussi. On a quand même beaucoup d'opportunités ici à Montréal puis au Canada, mais je vous dirais que si on se compare en Europe, c'est vraiment très, très peu. Donc, on doit un peu se battre pour les opportunités. C'est très compétitif. Et puis, c'est aussi très dispendieux comme carrière. Donc,
d'où l'importance de la démocratisation de l'accessibilité.
Exact,
ouais.
Exact, parce que sinon, je connais beaucoup de personnes qui doivent quitter le milieu. Ils terminent leurs études, ils ont un avenir prometteur, mais les fonds sont tellement insuffisants, puis c'est tellement difficile parfois de trouver l'argent nécessaire.
Malheureusement, Natacha, c'est tout le temps qu'on
c'est
avait.
Bon, mais
merci beaucoup là, d'avoir été avec nous. Donc, c'était Natacha Henry pour le Festival d'art vocal qui commence dès le 2 juillet. Je remercie tous nos invités d'avoir été avec nous et Christian Thibault à la régie. On vous dit à demain.
Du 13 au 21 juin, les Franco de Montréal vous réservent plus d'une centaine de spectacles en plein cœur du quartier des spectacles. À voir gratuitement sur la place des festivals, Jay Scott, Lou-Adriane Cassidy, Tibi Livo, Tiken Jaffacoli, Clara Luciani, Grand Corps Malade, Sale Barbe et plusieurs autres. Francomontréal.com pour découvrir la programmation complète. Présentée par Rogers en collaboration avec Loto-Québec.
Bonjour, je m'appelle Cathy Fuoco. Laissez-moi vous amener dans un voyage à travers les époques où les proverbes sont transmis de génération en génération et font partie du quotidien comme un espresso, un biscotto, une pasta carbonara, un panino ou bien un tiramisu. Une excursion rapide dans la culture italienne où l'on explore avec humour et bienveillance notre façon d'expliquer les petits soucis de tous les jours avec un proverbe. Arrivederci!
Salut, c'est Isabelle et j'ai envie de vous amener avec moi dans un univers musical électronique des années 70 à aujourd'hui. Cet été, l'émission Electro Cute sera en direct les vendredis de 16h à 18h et en rediffusion les mardis à 18h. À plus!
La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
On vient juste reprendre ce qui est à nous!
Comment?
On a le flow, on a le flair, tout Gucci. Comme le flair, ice, ice, en enfer, laisse-moi faire, légendaire.
Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lie et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.